Alors, ça me fait plaisir en tout cas d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est toujours un plaisir de rentrer, de revoir l'église, de revoir aussi la famille, les amis. Je suis content aussi de pouvoir partager aujourd'hui avec vous le message que j'ai préparé et que j'aimerais vous apporter aussi pour vous encourager. J'ai bien recommencé, sinon l'Institut Emmaüs, l'école se passe bien. C'est une nouvelle plongée dans une nouvelle année, une dernière année, après avoir fait mon stage en France, en Picardie, dans une toute jeune église, en fait. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la persévérance. La persévérance aussi dans l'épreuve. Et pour ça, je voulais lire un texte dans Romains au chapitre 5. On ne va pas le prendre tout de suite. On ne va pas prendre ce texte tout de suite parce qu'il faut, pour en parler, pour le lire, d'abord plonger dans le contexte de l'épître, de la lettre aux Romains, qui est une lettre que Paul écrit à l'église de Rome. Et en fin de compte, qui développe ou qui résume, ça dépend, mais qui parle vraiment du salut, de comment Jésus nous a sauvés. Et c'est à ce sujet que l'épître est écrite dans son ensemble, environ, si je me souviens bien, 16 chapitres. Oui, 16 chapitres sur le salut. Et du coup, je vais avec vous prendre disons, les choses qui sont avant ce passage et puis après, pour qu'on puisse bien comprendre ce passage dans son contexte. Est-ce que le micro fonctionne bien ou est-ce qu'il faut le changer? Ça joue? Super. C'est génial. Alors, j'aimerais commencer d'abord par une question qui peut être posée en fin de compte par tout chrétien, je pense. Qu'est-ce que devenir chrétien implique? Une fois que j'ai commencé, que j'ai fait cette démarche de foi, que je crois en Jésus-Christ, que je lui ai demandé pardon pour mes fautes et qu'il m'a pardonné par la grâce qui est en Jésus-Christ, est-ce que je n'ai plus rien à vivre en tant que chrétien ou est-ce que, au contraire, cette adhésion à la foi, cette conversion, est la première chose qui se passe dans ma vie de chrétien, et ensuite, toute une vie s'ouvre à moi. Alors, pour ça, j'avais envie de prendre le mot conversion. Conversion, en grec, c'est un mot qui s'écrit métanoïa. Métanoïa, c'est un mot qui veut dire repentance ou changement de manière de penser. Et c'est le mot qui est le plus souvent écrit. Et quand il y a repentance ou changement de manière de penser, forcément, il y a aussi un changement de vie, puisque nos pensées vont forcément influencer notre manière d'agir et notre manière de vivre. Il y a aussi un autre mot qui est aussi traduit par conversion. Et ça, il se trouve dans un seul passage du Nouveau Testament. C'est en Actes 15, verset 3. C'est épistrophé. Ce mot-là indique aussi un changement, mais c'est un changement d'orientation. Donc une personne qui se retourne dans un autre sens. Et quand quelqu'un marche dans la rue et qu'il change de direction, qu'il y a un changement d'orientation, c'est forcément aussi pour marcher dans une autre direction. Donc ça nous parle aussi de notre manière de vivre qui change aussi d'orientation au moment où il y a adhésion à la foi chrétienne, où il y a conversion, où il y a repentance, où il y a l'acceptation de la foi en Jésus-Christ. Si la conversion est un changement de direction, ce n'est pas la seule étape de la vie chrétienne, c'en est la première. Et à la conversion, si c'est la première, c'est donc un commencement. À partir du moment où Christ est en nous, où il est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est un commencement de vie. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a, dans la Bible, il est parlé de la nouvelle naissance. C'est le moment où le Saint-Esprit vient habiter en nous parce que nous croyons en Jésus, parce que nous l'avons reçu en nous. Il vient habiter dans nos cœurs. Dieu vient habiter dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Et nous sommes adoptés en tant qu'enfants de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes enfants de Dieu, qu'il y a cette nouvelle naissance spirituelle où nous naissons en tant qu'enfants de Dieu. Et s'il y a naissance, eh bien, quand vous voyez un petit bébé comme le bébé d'Esteban et puis de Johanny, ce n'est pas pour qu'il reste petit et bébé, c'est pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne un adulte, pour qu'il devienne mature. Et donc, qui dit commencement de vie, nouvelle naissance, dit aussi une vie qui s'en suit, une vie qui découle de ce départ, de ce nouveau départ. Dans la Bible, il est aussi dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ, un enfant de Dieu, à partir du moment où le Christ règne en nous. C'est donc les bases du salut que nous allons prendre aujourd'hui dans l'Épître aux Romains. Mais du coup, pour ça, nous allons voir que Christ nous sauve et nous justifie, comme introduction au passage que nous allons lire tout à l'heure. Donc, comment être justifié? Est-ce que c'est par notre propre effort ou est-ce que c'est par la grâce seule? Au moment de la réforme, il y avait quatre solas que les réformateurs disaient, et entre autres qu'il y avait sola gratia. Il y a un chant aussi que vous connaissez peut-être qui parle de la grâce seule. C'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. C'est pas par nos propres efforts. C'est pas au moyen des œuvres. C'est pas parce que nous allons faire de bonnes choses que nous serons sauvés ou que nous sommes sauvés. C'est parce que c'est une grâce seule de Dieu. Mais qui dit grâce, qui dit justification, demande pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être justifiés? Est-ce que nous avons besoin d'être justifiés? La Bible dit oui, mais pourquoi? Eh bien, simplement à cause du péché, à cause de nos fautes. Dans Romains 3, verset 23, il est dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » À cause de ce que nous avons fait, à cause du péché, que des choses mauvaises que nous avons fait, Dieu qui est saint et parfait ne tolère pas le mal en sa présence. Et nous ne pouvons pas avoir accès à lui sans qu'il y ait justice. Et qui dit justice dit aussi condamnation. Celui qui est séparé de Dieu à cause du mal qu'il a fait est condamné et ne peut pas avoir accès à Dieu. Mais c'est aussi à cause de notre manière mauvaise d'agir qui vient de notre propre nature humaine qui est incapable de ne pas faire le mal. Parmi nous, personne ne pourrait dire « je n'ai jamais fait de mal » et personne ne peut dire « je suis capable de ne faire que le bien ». Nous sommes, grâce à Dieu, tous capables de faire du bien, mais nous ne sommes pas libres de ne faire aucune chose mauvaise. C'est l'esclavage du péché qui est dans la nature humaine et malheureusement, cela nous sépare de Dieu et nous condamne aussi à être séparés éternellement de lui. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a justification en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous a aussi donné Jésus-Christ, qui est venu mourir à notre place. Mourir pour qu'un coupable soit puni. Étant coupable, nous, Christ, lui qui n'a jamais fait de faute, qui n'a jamais péché, a payé à notre place. Une rançon à notre place. Parce que nous avons une dette envers Dieu à cause de nos fautes. Lui est venu payer cette dette pour que la justice de Dieu soit accomplie. Pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait condamnation. Parce que Dieu est amour. Mais si Dieu est amour et qu'il n'est pas justice, alors l'amour est vain. Parce que l'amour réclame aussi justice. Si une personne est coupable parce qu'elle a tué, parce qu'elle a fait du mal, il est juste qu'elle soit punie. Et l'amour n'est pas contre la justice. Au contraire, l'amour a en lui-même la justice aussi. Quelqu'un qui n'est pas juste ne peut pas aimer. La justice dépend de l'amour, mais la justice et l'amour ne peuvent pas être séparés. Et c'est pourquoi Christ est venu. Il a porté sur lui la colère de Dieu qui devait tomber sur nous, parce que nous sommes fautifs. Mais dans son amour, Dieu a choisi de venir lui-même, Dieu le Fils, en tant qu'être humain, corporellement, physiquement, humain à 100% et Dieu à 100%. Il est venu sur la terre mourir à notre place pour que si nous croyons que nous nous repentions, il nous donne son pardon. Et c'est donc en nous confiant Jésus-Christ que nous sommes graciés parce qu'il a payé pour nous. Et donc, nous sommes justifiés par Dieu puisque la justice que Dieu réclame parce qu'il est juste et parce qu'il est amour a été respectée. Christ a porté la peine qui revenait sur nous. Quel cadeau! Quelle grâce! Oui, le mot « grâce » est bien choisi pour cela. En Romains 6, verset 23, il a dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle promesse, mais quelle vérité aussi pour nous qui croyons. Quelle vérité et quelle grâce. Dieu nous justifie donc par la foi en Jésus-Christ. Et celui qui croit, ses péchés ont été portés par Jésus-Christ et le croyant est gracié entièrement. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre Romains 5, versets 1 à 5. Et c'est ce que je vais lire maintenant. Romains 5, versets 1 à 5. Si vous voulez chercher dans vos Bibles, faites-le, c'est aussi projeté ici. Romains 5, versets 1 à 5. Est-on donc justifié par la foi ? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans ce texte, il est dit que le but de notre justification, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Si Christ est mort pour nous et qu'il nous a justifiés, c'est pour être réconcilié avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et qui dit réconcilier dit aussi, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir demandé pardon. Si dans une relation, il y a une cassure, une brisure, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a un conflit, pour être réconcilié, cela demande aussi de demander pardon. Oui, effectivement. Et c'est nous qui demandons pardon à Dieu parce que Dieu, lui, n'a pas de faute. Et effectivement, c'est important de demander pardon. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, son pardon nous est pleinement accordé, entièrement, en Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et comme nous lui faisons confiance pour notre pardon, pour toutes nos fautes, lui qui nous donne cette justification qui est complète, nous pouvons donc être sûrs de son pardon et savoir qu'il nous a pardonné et que nous sommes réconciliés avec lui. Ensuite, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous donne l'assurance d'être sauvés. l'assurance d'avoir la paix avec Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette paix qui est donnée en Jésus nous donne le salut. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous en sommes sûrs. Parce que c'est Dieu qui justifie. Parce que c'est lui qui réconcilie. Et donc, puisque c'est lui aussi qui pardonne, cela ne dépend pas de nous. Nous, nous avons à croire, à demander pardon, mais nous savons qu'il est fidèle pour faire ce qu'il promet. Et il promet le pardon à celui qui croit. Nous avons donc cette assurance d'être réconciliés et d'être sauvés au travers du sacrifice de Jésus-Christ, au travers de la grâce qu'il nous a donnée. Si j'ai la foi en Jésus, je suis justifié. Et c'est la foi seule qui sauve. Cela ne dépend pas de nous, mais de la grâce que Dieu nous donne en Jésus. C'est un encouragement énorme de savoir que c'est de la grâce de Dieu dont nous dépendons pour être sauvés. Parce que la grâce des hommes ou les efforts des hommes ne servent à rien. Ils ne permettent pas d'être parfaits et complets. Nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, nous hisser vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous et c'est sa grâce qu'il nous donne dans sa promesse, dans son immuabilité. Il ne change pas et sa grâce est sûre et certaine pour celui qui croit. Qui dit donc justice par la foi seule, dit aussi réconciliation avec Dieu. Étant réconcilié, je suis sauvé, car Dieu m'a donné la vie éternelle. C'est par grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. J'ai donc cette assurance d'être sauvé, par la foi en Jésus. Et cette foi, je l'ai en Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est venu vivre en tant qu'humain sur la terre. J'ai foi dans ce qu'il a fait, dans sa mort, à ma place. Dans sa résurrection, j'ai foi qu'il est monté au ciel, qu'il règne éternellement et qu'il reviendra. Mais cette foi implique aussi que je crois qu'il est le Seigneur. Car nous lisons, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Et si nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans la totalité de qui il est. Nous croyons qu'il est notre Sauveur, qu'il est Dieu lui-même, venu sur terre, mort et ressuscité, et nous croyons qu'il est le Seigneur. Et qui dit croire qu'il est Seigneur, obéissance vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas dire Christ est mon Sauveur, mais il n'est pas mon Seigneur. Si je crois en Christ, Christ dans son entier, Christ complètement, c'est Christ le Sauveur et le Seigneur, le Fils de Dieu. Cela implique donc aussi de l'obéissance envers lui. Puisqu'il m'a sauvé et qu'il est mon Seigneur, je lui obéis. Je veux vivre selon sa volonté. Je veux vivre selon ce que sa parole nous enseigne. C'est aussi le désir que nous avons, malgré nos imperfections. Malgré notre nature humaine qui ne nous permet pas d'être parfait, ne nous faisons pas d'illusions, personne ne sera parfait jusqu'à notre mort. Celui qui croit être parfait se trompe. Il est d'ailleurs dit dans la première lettre de Jean que c'est au moment où Christ reviendra que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Comme des miroirs qui reflètent le soleil, eh bien nous reflèterons sa gloire et sa personne, non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Et dans la lettre de Philippiens, Paul lui-même dit « Je cours sans pour autant avoir encore atteint le but. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue ma course et mon combat. » Et c'est important de savoir que oui, notre vie de chrétien est une course et que chaque jour, nous persévérons. Chaque jour, le Seigneur nous travaille pour lui ressembler toujours plus, pour être toujours plus conforme à qui est Jésus-Christ. et que le jour où nous mourrons, nous serons amenés vers lui. Et que c'est quand il reviendra que nous ressusciterons, qu'alors nous serons parfaits. Parfaits non pas à cause de nous, mais à cause de lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et cela implique aussi que nous, en tant qu'êtres humains, nous continuons de persévérer. De persévérer et aussi de vouloir toujours plus lui ressembler, malgré nos imperfections. Vouloir être dans sa direction, dans sa ligne, dans sa manière de vivre, dans comment il veut que nous vivions. Et quel encouragement, en fin de compte, de savoir que parce qu'il nous a sauvés, parce qu'un jour nous ressusciterons avec lui, nous sommes aussi appelés sur la terre à toujours plus lui ressembler, dans l'espérance que nous avons. Nous parlerons de l'espérance tout à l'heure. Et enfin, dans ce verset que je n'ai toujours pas fini d'apporter et d'expliquer, nous pouvons voir qu'il est dit « cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes ». Cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous avons été justifiés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est par la grâce seule. Ce n'est pas un dû et ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est bien à cause de la grâce seule de Dieu. C'est donc par la foi et non par nos œuvres. Nous devons tout à Dieu qui nous a sauvés. Et puisque nous sommes graciés, oui, nous rejetons le mal, parce que puisqu'il nous a pardonné, nous n'allons pas exprès continuer de faire ce qui n'est pas bon, mais nous allons vouloir de tout notre cœur chercher ce qui lui plaît. Et quelle promesse aussi qu'il nous donne que de pouvoir être aidé par lui à persévérer dans la sainteté, à être sanctifié, ça veut dire aussi d'avoir une vie qui est toujours plus sainte, qui est toujours plus comme Dieu le désire, lui qui est saint. Mais il nous promet aussi que si nous tombons et que nous demandons pardon, eh bien il nous pardonne. Mais c'est par sa grâce seule que nous sommes pardonnés. Dans 1 Jean, versets 1 à 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Celui qui, chacun d'entre nous, si nous faisons quelque chose qui déplaît à Dieu, lui qui est fidèle est prêt à nous pardonner et lui demander pardon, simplement confesser notre péché devant lui, lui demander pardon sincèrement, il nous promet le pardon. Et c'est dans cette grâce seule que nous devons demeurer. Nous avons été sauvés par grâce. Nous vivons en tant que chrétiens par grâce. Nous persévérons dans la foi par grâce. Nous continuons de vouloir lui ressembler par grâce aussi, parce que c'est par son aide que nous pouvons lui ressembler toujours plus. Tout est par grâce. Et si nous oublions cette grâce, quel dommage! Parce que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous avons besoin de sa grâce continuelle, qu'il nous donne, et nous ne la retire pas. Mais nous avons besoin de rester fermes dans cette grâce, de savoir que nous avons continuellement besoin de sa grâce à tout moment. Dans les difficultés aussi, nous avons besoin de sa grâce. Nous savons que nous dépendons de lui. Ce n'est pas nos efforts qui font que nous sommes agréés par Dieu, que nous sommes réconciliés par Dieu, que nous sommes reçus par lui en tant qu'enfants de Dieu et que nous sommes adoptés. C'est sa grâce seule. C'est sa grâce seule. Cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Cette grâce dans laquelle nous sommes appelés à demeurer fermes. Et lorsque j'ai cité 1 Jean 1, 9 tout à l'heure, qui dit que si nous demandons pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. La purification de tout mal ou de toute iniquité implique aussi que notre attitude va changer. Puisqu'il n'y a plus ce mal dont il nous purifie, nous n'allons pas remettre exprès du mal dessus pour avoir de nouveau la même attitude que nous avions. Non, au contraire. Et ce qui est intéressant de lire aussi, c'est que un peu plus loin, dans 1 Jean, il est parlé de la pureté que le chrétien veut entretenir. Et c'est lié à l'espérance. Donc au verset suivant de Romains 5, il est dit, c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de sa gloire. Nous espérons partager la gloire de Dieu. Non pas parce que nous, nous aurons fait de belles choses, mais parce que lui, en nous, aura fait de belles choses. Parce que lui nous aura sauvés. Il nous a sauvés et à ce moment-là, le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ va être complètement manifesté. Nous allons ressusciter et nous allons aussi vivre cette gloire. Il va nous la partager, il va nous donner cette gloire. Et c'est une espérance, l'espérance de partager cette gloire, non pas pour la gloire que nous pourrions avoir, mais pour la gloire qui est en Dieu. Cela veut dire qu'en fait, nous serons auprès de Dieu. Tellement intimement que sa gloire sera en nous. Quelle proximité magnifique et quelle promesse merveilleuse il nous donne dans cette espérance, grâce à Jésus-Christ. Il nous a promis d'être ressuscités, de partager sa gloire et aussi de n'avoir plus aucune souffrance, que les pleurs ne seront plus. C'est une espérance merveilleuse. Et c'est justement dans ce sens que nous pouvons lire dans 1 Jean verset 3, 2 à 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire lors du retour de Jésus-Christ, nous serons semblables à lui. » Parce que nous le verrons tel qu'il est. Il nous transformera complètement dans sa gloire, comme des miroirs qui reflètent le soleil. Nous ressemblerons complètement à lui. Et le verset 3 continue en disant, « Quiconque a cette espérance se purifie, comme Christ lui-même est pur. » À cause de notre espérance, nous sommes aussi appelés à persévérer dans la pureté, à persévérer dans les combats de tous les jours, pour avoir Christ comme but final, au travers de toutes ces choses. Ainsi, le Seigneur nous demande de persévérer aussi dans la sainteté, en attendant la réalisation de ces merveilleuses promesses. Voilà. Que dire d'autre? Le Seigneur va revenir, il va nous ressusciter, nous allons recevoir ses promesses, elles vont se réaliser. Et en attendant son retour, nous persévérons, nous sommes appelés à persévérer. Mais persévérer dans les épreuves, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si la prédication s'arrêtait ici, ça aurait été un fort encouragement. Oui. Mais les versets que j'ai lus ne s'arrêtent pas ici. Il est aussi question d'épreuves, de détresse, de tribulation. Dans les défis de chaque jour, lorsque nous rencontrons de l'opposition, soit parce que nous sommes chrétiens, soit parce que nous voulons agir d'une manière qui est selon Dieu, pour lui plaire, avec valeur, avec honnêteté, avec pureté, avec respect, en refusant de mentir, de haïr, de se moquer, en ne participant pas à l'injustice ou à la méchanceté, mais en voulant dire la vérité dans l'amour, en voulant être fidèle au modèle que Christ nous donne, nous avons besoin, vraiment, de persévérer. C'est un combat. C'est un combat quotidien. Mais nous savons que celui qui est en nous, Jésus-Christ, est victorieux. Il est victorieux, non pas pour faire tout ce que nous voudrions, pour combler toutes nos envies, mais pour que nous tenions ferme jusqu'au bout, malgré les épreuves, en tout temps, dans la joie comme dans la difficulté. Sa victoire est une victoire véritable qui se vit aussi dans la difficulté, dans l'épreuve, dans les moments durs, pénibles, que nous avons tous à traverser. Car s'il est celui, Dieu, s'il est celui qui nous a fait grâce de nous sauver, il est aussi celui qui nous fait la grâce de nous donner la force de persévérer. Dans la maladie, dans la douleur, dans la tristesse, dans le deuil, dans l'incompréhension, nous pouvons compter sur Dieu pour nous soutenir. Oui, Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer. Il peut délivrer de l'épreuve et de la main des hommes mauvais. Mais c'est dans l'épreuve aussi que notre foi est mise à l'épreuve. Dieu nous promet de nous donner la force de les traverser. Non pas que ça devienne facile, mais que nous allons persévérer par son aide. Dans les épreuves, il nous forme. Dans les épreuves, il nous forge aussi. Nous dépendons bien plus de lui dans les épreuves, puisque nous sommes dans un état de faiblesse. C'est alors que sa force en nous nous permet d'avancer et de tenir ferme. Ce n'est pas lui qui crée le mal. Ça, non. Dieu est parfait, il est entièrement bon. Mais il choisit que nous passions par là parce qu'il a un but meilleur pour nous et qu'il nous affermit au travers de ces difficultés. En fait, rien n'échappe à son contrôle. Et nous pouvons donc lui faire entièrement confiance, parce que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos forces. Nous savons que le mal ne vient pas de lui, mais qu'il choisit tout de même que nous passions au travers d'épreuves pour nous affermir, pour montrer que notre foi tient véritablement, et parce qu'il a meilleur au-delà de l'épreuve. Il promet de nous donner la persévérance. La persévérance, c'est une chose qui vient d'une part de nous. Oui, nous nous y engageons, nous choisissons de persévérer. Mais la persévérance ne vient pas que de nous. Elle vient de Dieu lui-même, qui a choisi que ceux qu'il a sauvés persévèrent jusqu'au bout. Il a choisi que nous qui croyons, lui qui nous a choisis en Jésus-Christ, nous tenions jusqu'au bout, nous persévérions par sa grâce. Et la persévérance est ainsi aussi grâce de Dieu. Si nous choisissons de persévérer, c'est parce qu'il nous donne de le choisir, c'est parce qu'il nous donne la persévérance, c'est parce que nous dépendons de lui pour pouvoir persévérer. C'est un encouragement énorme que de savoir que dans les difficultés, si nous ne nous sentons pas la force, lui est fidèle. Et la persévérance ne vient pas de nos propres efforts uniquement, mais d'abord de l'action toute puissante et souveraine de Dieu. Dans Romains 8, verset 28, il est dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Oui, nous sommes appelés, nous qui croyons, par Dieu, à tenir jusqu'au bout. Et ce verset n'est pas dit comme ça par Paul, en disant « tout est joyeux », au contraire. Il le dit dans des moments de souffrance et de difficultés intenses. Il parle du moment présent dans lequel il est, et il parle de ses moments difficiles, de ses propres souffrances. Et il y a toute une liste des choses par lesquelles il est passé, par lesquelles il passe encore. Et il dit ces paroles en disant « Mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés par son seul dessein. » Et ensuite, le chapitre 8 est une merveille d'encouragement, parce qu'au travers des difficultés, nous savons que Dieu est fidèle, que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous qui croyons. mais je vais vous laisser le chapitre 8 pour vos lectures personnelles et je vais revenir à Romains 5. Au verset 3, nous pouvons lire bien plus. Nous nous glorifions même dans les tribulations ou dans les détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Le mot glorifier, nous nous glorifions, en grec, en fait, ça exprime l'idée de fierté. Ce n'est pas la gloire, comme nous avons au verset précédent, la gloire de Dieu que nous allons partager par sa grâce quand Jésus reviendra. C'est en fait le fait d'être fier de quelque chose auquel nous avons part. Nous sommes fiers des tribulations. Nous sommes fiers même dans les détresses. En fait, c'est dans les détresses que nous sommes fiers, mais cela ne dit pas que nous sommes fiers des détresses elles-mêmes. En fait, nous sommes fiers dans les détresses à cause de ce qu'elles vont produire, à cause de ce qui vient après et au travers de celles-là. Ce n'est pas que nous sommes contents d'être dans la difficulté, mais c'est que nous sommes contents de ce qui va sortir de la difficulté, de ce que Dieu va nous donner dans cette difficulté, de ce que Dieu va faire sortir de ces moments difficiles. Et c'est ainsi que nous savons que Dieu fait de bonnes choses pour ses enfants, pour nous qui croyons, et qu'au-delà même de l'épreuve, à travers ces épreuves et après l'épreuve, ressortira de bonnes choses. Restons donc conscients que la fin de l'épreuve n'est pas forcément celle qu'on voudrait nous en premier. On pourrait s'imaginer toutes sortes de choses qui puissent, oui, être merveilleuses dans ce monde, ici-bas, et Dieu, oui, peut les faire, mais il ne les fait pas tout le temps. On peut prendre par exemple l'histoire de Pierre et l'histoire de Jacques. Au début des Actes, alors que le Saint-Esprit a été donné à l'Église et qu'ils ont pu témoigner qu'il y a eu un grand nombre de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, alors que l'Église est née, Jacques et Pierre vont être les deux arrêtés par le roi Hérode. Pierre va être arrêté et emprisonné. Et puis auparavant, Jacques a aussi été arrêté et emprisonné. Et qu'est-ce que nous pouvons lire dans les Actes ? Jacques a été arrêté et exécuté. Et Pierre, lui, a été arrêté, mais libéré par un ange. Les deux étaient apôtres de Jésus-Christ. Les deux, Dieu les aimait. Les deux étaient des croyants, convaincus, entièrement. Mais l'un est retourné auprès de Dieu. L'autre, le Seigneur l'a libéré, selon ses plans aussi, pour qu'il puisse encore vivre. Et qu'il fasse aussi quelque chose ici-bas. Mais l'un et l'autre étaient entièrement chrétiens, appartenaient entièrement au Seigneur. Mais ce qui est important de voir dans ces deux histoires, c'est que Dieu les a fait persévérer jusqu'au bout, tous les deux. Ils ont tenu ferme dans l'épreuve qu'ils traversaient. Ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas renié Jésus, malgré leurs difficultés, voire leur incompréhension ou l'incertitude qu'ils avaient pour leur vie. Ils avaient tous les deux, par contre, la ferme assurance de leur salut et de la gloire qu'ils recevront auprès du Seigneur lorsqu'il reviendra. Et si Jacques a été exécuté, il a tenu ferme. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a tenu ferme et que le Seigneur l'a repris auprès de lui. Et Pierre a persévéré aussi par la grâce de Dieu et Dieu l'a libéré. Et l'un comme l'autre ont tenu ferme. Et l'un comme l'autre, maintenant que les deux sont morts, effectivement, sont auprès du Seigneur. C'est aussi un exemple pour nous que de persévérer ainsi. Et c'est ainsi que Paul est fier de ce qui va découler des tribulations, des détresses, à cause de ce qu'elles entraînent. Parce qu'elles nous entraînent à persévérer. Quand la difficulté vient, nous avons justement à persévérer. Elle nous entraîne à persévérer. C'est ce que dit le passage. La détresse produit la persévérance. Et bien plus. Au verset 4, nous lisons que la persévérance produit une fidélité dans l'épreuve. Une fidélité dans l'épreuve ou une foi prouvée. Soit une foi qui est trouvée solide. Une foi qui est trouvée persévérante. Une foi qui est aussi affermie au travers des épreuves. C'est que Dieu, lui qui nous donne la foi, nous l'affermit aussi parce qu'il est fidèle. Et enfin, à la dernière partie du verset 4, cette foi éprouvée, parce qu'elle tient ferme et qu'elle s'affermit, nous remplit d'espérance. C'est l'espérance d'être sauvé et d'être avec Christ dans sa gloire. Nous tenons ferme dans l'espérance de recevoir ses promesses. Nous tenons ferme pour avoir part à cette espérance. Et de même, c'est parce que nous espérons que nous persévérons. Et parce que Dieu nous donne la persévérance. Cela vient de sa main bienveillante. Nous pouvons lui faire confiance pour tenir et pour avancer. Nous aussi, nous avons, dans sa totale dépendance, à vouloir persévérer, à nous y engager. Bien sûr, nous n'avons pas à dire « Dieu ne m'a pas donné la persévérance, ce n'est pas ma faute ». Non, au contraire, c'est parce qu'il nous fait la grâce de persévérer que nous nous impliquons aussi dans cette persévérance. Et enfin, s'il sauve, ce n'est pas pour que nous ignorons sa volonté, mais pour que nous vivions selon lui et pour lui. La persévérance est donc quelque chose qui vient de Dieu, qu'il nous donne entièrement, mais qui nous implique aussi à y entrer, à persévérer. Cela aussi implique des efforts, bien sûr. Mais ces efforts ne sont pas que par nous-mêmes. Au contraire, c'est Dieu qui nous permet, qui nous donne et qui nous amène à persévérer. Et enfin, Paul, au verset 5, démontre que cette espérance que nous avons est bien solide et véritable à cause de l'amour de Dieu en nous qui est donné par le Saint-Esprit. En résumé, étant donc sauvés par la foi en Jésus-Christ, nous sommes et nous restons fermement attachés à cette grâce, même dans les épreuves, et nous persévérons. Parce que dans l'épreuve, nous apprenons à persévérer, et parce que notre espérance vient de cette persévérance, donc parce que notre espérance montre que notre foi est fidèle en fait, que notre foi qui est alors éprouvée nous donne l'espérance. Si nous persévérons dans l'épreuve, notre foi est montrée fidèle. Et parce que notre foi est montrée fidèle, nous avons une grande espérance. En conclusion, je ne veux simplement que vous encourager. J'aimerais vous encourager à cause de l'espérance qui est en Jésus-Christ et parce qu'il nous a sauvés lui-même par sa propre vie, à persévérer dans les épreuves, sachant que notre épreuve ne saura pas éteindre notre espérance. Les épreuves ne pourront jamais éteindre l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Au contraire, la persévérance de notre foi, parce que Dieu l'a fermée, va produire en nous, va la conforter et va produire en nous l'assurance de notre espérance. Cette assurance du salut et cette espérance merveilleuse au travers même des épreuves. Oui, qu'un jour, nous verrons Jésus face à face et nous aurons persévéré. Que Dieu vous bénisse dans cette espérance et qu'il vous donne cette persévérance parce qu'il l'a promis au travers même des épreuves.